Alphonse Daudet, La Fée d'Or. François, c'est Monsieur Veillon. À cet appel vivement envoyé par la svelte jeune femme entre les bacs fleuris du perron, François Dubréau se dressa sur la pelouse où il jouait avec sa petite fille et vint au-devant du visiteur, une main tendue, l'autre calant sur son épaule l'enfant qui riait et jetait ses petits pieds chaussés de rose dans le soleil. « Ah, c'est Monsieur Veillon. Eh bien, il sera reçu, Monsieur Veillon. Si ce n'est pas honteux, 3 mois sans venir à Château-Frayé, sans donner une fois de ses... » Il s'arrêta au bas des marches, saisi par l'expression gênée, angoissée, quelque chose de confus et de fuyard, que la nécessité de mentir donnait à la ronde figure, bonasse et moustachue, du meilleur et plus ancien compagnon de sa jeunesse. « Ah, tu veux me parler ?»« Oui, mais pas devant ta femme. » Ce fut dit, glissé dans l'échange nerveux d'une poignée de main. Mais jusqu'au déjeuner, les deux amis ne purent se trouver seuls une minute. Quand la nourrice eut emporté mademoiselle, toutes ces grâces faites au monsieur, il fallut explorer la propriété très chargée, très embellie depuis ces derniers mois. Ce château frayé, dont la famille de Madame Dubréau portait le nom, était un très ancien domaine, moitié donjon, moitié raffinerie, flanqué d'une tour massive et d'un parc aux verdures féodales, où fumait une cheminée géante sur des plaines infinies de blé, d'orge et de betteraves. Sans le halo rougeâtre que Paris allumait chaque jour à l'horizon, on aurait pu se croire au fond de l'Artois ou de la Sologne. Là, depuis 2 ans, depuis leur mariage, le marquis Dubréau et sa jeune femme, son petit château frayé, comme il l'appelait, vivaient dans une solitude aussi exclusive que leur amour. Au moment de se mettre à table, nouvelle apparition de la nourrice qui venait chercher madame pour l'enfant. « Un type, cette nounou, » dit la jeune mère sans plus s'émouvoir. « C'est la paysanne à scrupules. Avec elle, on n'a jamais fini. Déjeunez, messieurs, je vous en prie, ne m'attendez pas. » Elle avait, en quittant la table, un joli sourire de sécurité dans le bonheur. Derrière elle, tout de suite, le mari demanda « Qu'y a-t-il ?» « Louise est morte, » dit l'ami gravement. L'autre ne comprit pas d'abord. « Eh oui, Loulou, la fée d'or, voyons. » Nerveusement, par-dessus la table, François saisit la main de son ami. « Morte ? Tu es sûr ?» Et l'ami, affirmant de nouveau d'un implacable signe de tête, Dubréau eut non pas un soupir, mais un cri, il bramait de soulagement. « Enfin !» C'était si férocement égoïste, cet élan de joie devant la mort. Surtout une femme comme la Fée d'Or, l'actrice célèbre, admirée, désirée de tous, et qu'il avait gardé 6 ans contre son cœur. Il se sentit honteux et gêné, s'expliqua. « Mais c'est horrible, n'est-ce pas? Mais si tu savais comme elle m'a rendu malheureux au moment de la séparation, avec ses lettres folles, ses menaces, ses stations sans fin devant ma porte. 6 mois avant mon mariage, 10 mois, 15 mois après, j'ai vécu dans l'épouvante et l'horreur, ne rêvant qu'assassinat, suicide, vitriol et revolver. Elle avait juré de mourir, mais de tout tuer auparavant. L'homme, la femme, même l'enfant, si j'en avais un. Et pour qui la connaissait bien, ses menaces n'avaient rien d'invraisemblable. Je n'osais conduire ma pauvre femme nulle part, ni sortir à pied avec elle, sans craindre quelque scène ridicule ou tragique. « Et pourquoi cela? Quel droit prétendait-elle sur ma vie? Je ne lui devais rien, du moins, pas plus que les autres, que tant d'autres. » J'avais eu trop d'égards, voilà tout. Et puis, j'étais jeune et pas de son monde d'auteur et de cabotin. On attendait plus de moi. Peut-être le mariage et mon nom. Ça s'est vu. Ah, pauvre loulou. Oh, je ne lui en veux plus. Mais ce qu'elle m'a embêté. Mes amis s'étonnaient de ce voyage de noces interminable. Ils peuvent se l'expliquer maintenant. Et pourquoi, au lieu de rentrer dans Paris, je suis m'enfermé ici, pris d'une passion subite pour la grande culture. Encore n'étais-je pas toujours tranquille. Et lorsque le timbre de la grande porte sur la route donnait très fort ou à des heures insolites, mon cœur sautait dans ma poitrine, je me disais « Ah, la voilà !» Veillon, qui, tout en mangeant d'un robuste appétit, écoutait attentivement ses confidences entrecoupées des va-et-vient du service, dit à François, sur un ton de reproche, « Eh bien maintenant, tu pourras dormir tranquille. Elle est morte avant-hier à Vissou, chez sa sœur qui l'avait recueillie il y a 4 mois, quand sa maladie s'est aggravée. » Dubréau tressaillit douloureusement. Malade, et tout près de lui, quelques lieues à peine, sans qu'il en eût rien su. Comment as-tu appris, toi, qu'elle était là? Ben, c'est elle qui m'a écrit de venir la voir. Je l'ai trouvée dans le milieu le plus bourgeois, le plus contraire à sa nature, chez Marie Fédor, l'ancien prix de tragédie, devenue Madame Restouble, femme du notaire de Vissou. Mais elle se détestait. Oh, Loulou était bien injuste. Elle en voulait à sa sœur d'avoir renoncé à la vie de théâtre pour épouser son étudiant des beaux jours du conservatoire. Dubréau se mit à rire. Son étudiant, lequel? Elle en avait plus de 20. Ah, elle n'en a toujours épousé qu'un, maître Restouble, dont les panonceaux reluisent sur la plus coquette maison de Vissou depuis je ne sais combien de générations. C'est là que je l'ai retrouvée, ton ancienne. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Parce que tu es marié, que tu aimes ta femme. Tout ce passé n'avait rien d'intéressant pour toi. Seulement aujourd'hui, et Veillon hésita une seconde, puis très froid toujours, mais avec le tremblement de sa grosse moustache brune. L'enterrement est pour 3 heures, je me suis promis que tu serais là. François du bureau n'eut pas le temps de répondre. Sa femme venait d'entrer, moins radieuse que tout à l'heure, une inquiétude au fond de ses jolis yeux. Pour une fois, la nourrice avait raison. Les paupières de l'enfant étaient brûlantes, et aussi ses petites mains. « Oh, ce ne sera rien, » ajouta vivement la mère, se méprenant à la gêne consternée qu'elle devinait autour de la table. « Oh, si, n'est-ce pas cela qui nous préoccupe, » dit le mari, « mais je viens d'apprendre une mort, quelqu'un que j'ai beaucoup connu. »« Qui donc ?» Veillon vint en aide à son ami. Il s'agissait d'un de leurs anciens de Louis le Grand, Georges le Fer, chez qui, dans leur jeunesse, ils venaient quelquefois déjeuner le dimanche. Ses parents, de grands fabricants de bière, avaient leur usine en face, de l'autre côté de la Seine, dans ces immenses plaines qui vont jusqu'à Montlhéry. Il était mort là, on allait l'enterrer. Madame Dubréau regarda son mari. Tu ne m'en as jamais parlé de ce Georges Offer? Il répondit. Oh, il y a longtemps que je ne le voyais plus. Veillon ajouta très sérieux. Oh non, c'est d'égal, tu ferais bien de venir. Et la femme, plus gravement encore. Oh, il faut y aller, mon ami. L'accent de pitié, de douceur dont elle dit cela, les saisit tous les deux. Ils en parlaient une heure après dans le train de la grande ceinture qui les emmenait à Juvisy, où commencent les plaines de Vissous. Crois-tu qu'elle se soit doutée de quelque chose ? S'informait Veillon. Dubréau, lui, ne le pensait pas, elle me l'aurait dit. C'est une limpide, une vibrante, incapable de rien cacher. La Fédor disait quelquefois, « Je suis un brave homme, on peut se fier à moi. » Brave homme, je veux bien. Mais une sacrée femelle, tout de même, et qui, née dans le ruisseau, n'ayant jamais eu pour se conduire que ses instincts de fille ou de cabotine, s'imaginait que toutes les femmes lui ressemblaient, en plus bêtes et plus méchants, et aurait voulu me le faire croire. Si je n'avais pas eu la chance de rencontrer mon petit château frayé, et de m'en toquer tout de suite, ma foi, j'aurais peut-être fini par l'épouser. Il n'en aurait toujours pas eu pour bien longtemps, murmura Veillon dans un sourire navré. La pauvre Louise était condamnée. Mais enfin, de quoi est-elle morte? Je l'avais laissée en pleine santé, en pleine force. L'ami, accoudé à la portière et regardant dehors, bredouilla quelques mots sous sa moustache. Épuisement, bronchite, mal soigné, on savait au juste. Il y eut un instant de silence, puis, sur l'annonce de la station de Juvisy, « Oh, il faut descendre, dit Veillon, nous ferons le reste du chemin à pied. » Sous un ciel de juillet, embrasé et blanc, un ciel de soleil fondu, le pavé du roi, comme on l'appelle encore, déroulait son interminable chaussée bordée d'ormes rachitiques et de bornes monumentales. De distance en distance, le long des fossés à l'herbe rase et roussie, une borne de pierre, une croix de fer commémorative, marquait la place où un tel maréchait le tel endroit, en Seine-et-Oise, rentrant des Halles de Paris, était mort écrasé par les roues de sa charrette. Fatigue ou boisson, quelquefois les deux, murmura Veillon. Et Dubréau, d'un air détaché, à propos de boisson et le musicien de Louise, en a-t-on des nouvelles ? Tu sais ce Desvarenne, le chef d'orchestre, qu'il a enfin consolé de son veuvage. Il paraît qu'il se battait et se saoulait d'absinthe tous les soirs. Veillon se retourna brusquement. Mais qui a dit ça ? Qui l'a vu ? Et puis quand cela serait ? La Fédor n'en a pas moins été une artiste de grand talent. Une belle et bonne fille, qui t'a aimé du mieux qu'elle a su, ce qui vaut bien les 2 ou 3 heures de ton temps que tu lui donnes aujourd'hui. Le pavé du roi franchi, les deux amis s'engagèrent sur un de ces innombrables chemins de campagne, tout brûlants et craquants de poussière entassée, qui s'entrecroisaient à perte de vue dans ces champs de seigle et de blé éblouis et papillotants sous le soleil. L'air flambait. Ça et là, l'aiguille d'un clocher, une rangée d'arbres, le crépi lumineux d'une muraille interrompait la ligne uniforme de l'horizon, mais jamais le chemin qu'ils suivaient n'allait dans la direction de ce clocher, de cette muraille. « Tu ne vas pas nous perdre, » fit Dubréau, s'adressant à son compagnon, arrêté devant un poteau indicateur, un tournant de route. Veillon le rassura. Il connaissait très bien le chemin de Vissous à Château-Frayé, l'ayant fait récemment encore avec Louise. « Car, figure-toi, mon cher, qu'en se réfugiant chez sa sœur, qu'elle détestait, qu'elle croyait sa plus mortelle ennemie, la pauvre fille n'avait qu'un but, une espérance, te revoir. Dès ma première visite, elle m'en parlait. « Vous comprenez, mon petit Veillon, me disait-elle, avec cette grâce ingénue que lui avait rendue la souffrance, Ce n'était pas possible qu'il vînt chez moi quand je vivais mal dans le vice et dans la bohème. Mais ici, chez les gens mariés, chez un magistrat, ma sœur me le répète assez, bon Dieu de Dieu, que son mari est magistrat, rien ne peut l'empêcher, n'est-ce pas? Ah, la malheureuse, pour lui persuader qu'elle rêvait une chose impossible, que l'honnête homme que tu étais ne pouvait faire cela, ne le ferait pas certainement. Ah, le mal que j'ai eu, d'ailleurs sans la convaincre. Du Bréau, qui s'était arrêté pour allumer une cigarette, murmura au bout d'un moment, « Pourquoi se voir d'abord? Qu'aurions-nous pu nous dire ?»« Oh, je sais bien ce qu'elle t'aurait dit et pourquoi elle t'aurait tant tenu à te voir avant de mourir. Mais pourquoi ?» Elle aurait voulu te demander pardon, oui, pardon de ses lettres, de ses menaces, de toutes les démences dont elle te persécutait. Je t'avoue que devant sa détresse, ses remords, je lui ai menti abominablement à cette pauvre loulou, lui laissant croire que tout était pardonné, oublié. Mais si tu penses que je m'en suis débarrassé avec cela... Quand elle a eu bien compris que tu ne viendrais pas à Vissou, que tu n'y pouvais pas venir, alors ça a été une autre chanson. Ta vie à Château-Frayer, votre installation, si vous faisiez de la musique le soir, si ta petite te ressemble, c'était des questions sans fin. Dès que j'arrivais, impossible de lui parler d'autre chose. Puis un jour, elle nous a déclaré qu'elle voulait voir ta maison, seulement les murs, seulement la cime des arbres. C'est là que j'ai compris combien elle se trompait sur sa sœur. Brisée, malade comme elle était, on ne pouvait pas la mettre en wagon, elle devait faire toute la route en voiture, allongée sur des coussins. Je peux dire que Marie Fédor a été d'une douceur, d'une patience admirable et que sans elle, jamais Louise n'aurait pu satisfaire son caprice. Un vrai voyage, fatigant et long, mais tout lui semblait magique, cette première haleine du printemps, allègre et vive, l'herbe nouvelle qui pointait partout dans les champs, tout la grisait. Nous nous sommes arrêtés au bois Margaux et là, descendus de voiture, nous avons pris un chemin de traverse, mangé le ronce, ce que les cantonniers appellent une route morte. Ce chemin contourne le parc de Château-Frayer. Nous l'avons suivi tous les trois, en frôlant les murailles chaudes de soleil. J'avais peur d'être vu par un de tes fermiers ou par quelque ouvrier de ta raffinerie. Ils me connaissent tous. Heureusement, c'était l'heure du travail. Alors elle s'exaltait à l'idée que cet immense troupeau dans la plaine, ce berger et ces grands chiens étaient à toi. Que je m'amuse, que je suis contente, disait-elle en battant des mains comme une enfant. Arrivée près de la charmille, son saisissement grandit encore. Tu sais que la muraille, de distance en distance, est remplacée par une haute grille de fer qui laisse voir la double allée de tilleuls séparée d'une large pelouse. Nous étions là, regardant derrière les barreaux, aspirant l'odeur de toute cette jeune floraison printanière épanouie sous le soleil, quand je reconnus de loin la voix de ta femme qui arrivait vers nous sous la charmille avec la nourrice et l'enfant. Oh, je n'eus que le temps de m'écarter, laissant Louise au bras de sa sœur, immobile derrière la grille. Mon regard ne la quittait pas. Quand ta femme est passée, reculant un tout petit pas devant sa fille, rien, pas un de ses traits n'a bougé. Seulement, c'était sinistre, ses jouaves et décharnées, ce masque de mort guettant à travers les barreaux de fer infranchissables, ce qu'il y a de plus beau dans l'existence, tout ce qui pouvait lui faire envie et regret, la maternité heureuse, la jeunesse. Par exemple, lorsqu'elle a vu venir la petite, trottant et petonnant sous sa longue blouse, quelle illumination sur cette pauvre figure d'incurable! Elle riait, elle pleurait, et disait tout bas à sa sœur en s'essuyant les yeux: mais regarde-la donc, la chérie! Elle a les cheveux du même blond que son père, et elle frise comme lui. Oh, la mignonne, la mignonne! Son émotion était si vive, toute tremblante, les mains tendues. Il a fallu l'arracher de là, l'entraîner vers la voiture, où elle est tombée sans force. Au retour, elle ne prononça pas un mot de toute la route, resta les yeux fermés, aspirant un bouquet de fleurs jaunes du grand ébénier qui dépasse le mur de la raffinerie. Le dimanche suivant, quand j'arrivais, j'avais pris l'habitude de venir la voir tous les dimanches, je la trouvais comme toujours au fond du jardin, allongée dans un grand fauteuil d'un vert pâle, où sa figure ombrée, ses bras minces, ses longues mains prenaient un aspect lamentable d'épuisement. Il m'a semblé la voir dans ce dernier acte de la dame où Desclée seul lui était comparable. « Je ne renoncerai plus, me dit-elle à propos de sa visite à Château-Frayer. J'ai trop souffert. Oh, je ne recommencerai plus, je suis trop cassée. » Et baissant la voix à cause du jardinier qui ratissait tout près de nous, ma sœur savait bien ce qu'elle faisait en me donnant l'idée de ce voyage. Elle m'a retourné le couteau dans le cœur. La lame y est restée. Enfin, crois-tu, si c'était de l'injustice, cette malheureuse Marie Fédor, ce dévouement de toutes les heures, la soupçonner d'une machination pareille, d'une perfidie aussi compliquée? Du reste, tu vas la voir, madame Restouble. Tu te rendras compte que c'est une bonne et charmante femme, ressemblant aussi peu au monstre dont Louise nous parlait, que la jolie maison que voici, dans l'apparence du bagne où la pauvre fille prétendait s'être enfermée par amour de toi. Nous y sommes, là, tu peux juger. Tout à l'entrée du village, le très ancien logis du notaire, avec ses murs blanchis à neuf, ses persiennes fraîches peintes, ses panonceaux étincelants, se dressait étroite et bas près une petite cour, toute fleurie et rougeoyante d'une énorme corbeille de géranium. Malgré le deuil de la maison et le drap noir qui encadrait la porte, l'étude, très achalandée, n'avait pas chômé ce jour-là, et par les persiennes seulement entrecloses, on apercevait des profils sur des paperasses, on entendait une voix jeune dictant un acte parmi le grincement des plumes d'oie qui grossoyaient. Dans le corridor du bas, au sonore effraie d'allage, un tréteau préparé attendait le cercueil. Tout au bout, une porte vitrée permettait d'entrevoir les allées vertes du jardin et les noires silhouettes des invités. « Reste ici !» dit Veillot en laissant son ami dans la cour. « Le cercueil n'est pas encore descendu. Je vais demander qu'on nous la laisse voir. Je crois qu'il est encore temps. » Tout ému par la pensée de cette suprême entrevue, Dubréau commençait à s'impatienter de tourner autour des géraniums en entendant chuchoter dans son dos l'éclair de l'étude. « Nous montons ? » demanda-t-il à son ami, enfin apparu sous la draperie funèbre. Veillon balbutia. Bah, c'est inutile, on ne peut pas, c'est trop tard. L'autre, sans prendre garde à son embarras, proposa tout naturellement de passer dans le jardin avec tout le monde. Il n'était peut-être pas fâché, en définitive, d'échapper à cette confrontation douloureuse qu'il s'imposait un peu comme un devoir après ce qu'il venait d'apprendre des derniers jours de Louise et l'espèce de sacrifice qu'elle lui avait fait en venant vivre et mourir chez sa sœur. Mais sa stupéfaction fut grande de voir Veillon, au lieu de passer devant, rester immobile et décontenancé en face de lui, comme pour l'empêcher d'aller plus loin. « Mais quoi donc ? » fit-il enfin. Et l'ami, cherchant ses mots, la voix et le regard gênés, « Oh mon cher, c'est absurde ! Tu sais dans quel état le chagrin met les femmes. Voilà que Marie Fédor, Madame Restouble, si aimable ordinairement, t'en veut d'avoir laissé mourir sa sœur sans être venue une fois. J'ai eu beau lui dire et redire sur tous les tons que tu ne le pouvais pas, que même ta démarche d'aujourd'hui était une imprudence vis-à-vis de ta femme et de votre bonheur. Inutile, elle est furieuse, elle ne veut pas te voir, elle ne descendrait plutôt pas. Alors quoi, il faut que je m'en aille. » Veillon hésitait. Je ne sais que te dire. Quand je pense que je t'ai fait faire cette longue route et qu'on ne te laisse même pas le droit d'aller jusqu'au cimetière, dit François Dubréau en souriant tristement. Oh, que veux-tu, cela est peut-être mieux ainsi. Je m'en vais revenir chez nous, tout doucement, par les mêmes grandes plaines, en me remémorant ces quelques années, ce triste flambeau de ma vie qu'ils sont en train d'ensevelir là-haut. Il levait les yeux vers une des fenêtres du premier étage, dont le rideau blanc, curieusement écarté, retomba tout aussitôt contre la vitre. La sœur de Louise guettait l'effet de son refus. Rester là plus longtemps eût été vraiment trop lâche. Ben non, c'est impossible, tu ne peux pas t'en aller seul, dit Veillon, accompagnant son ami vers la rue. Nous allons revenir ensemble. Non, non, reste, je le veux. Il faut que tu sois là, que tu me remplaces jusqu'à la fin, surtout s'il est vrai, comme tu dis, que la malheureuse fille ait pensé à moi dans ce dernier moment. Allons, entre vite et à bientôt. Maintenant, nous te reverrons le dimanche, j'imagine. » Dubréau repoussa la grille en bois de l'entrée et, plus ému qu'il n'aurait voulu le paraître, s'éloigna de l'étude à grands pas. Hommes et bêtes, tout le village à 7 heures était dans les champs. Où, dans quel champ? Sans doute entre ces plis du terrain où les troupeaux couchés tiennent de plus loin la place d'un sillon, les hommes au repos, celle d'une ornière. Car il n'avait vu, en venant par toute la plaine embrasée et déserte, qu'un immense battement de lumière. Après quelques ruelles blanches et silencieuses, aux maisons basses, aux cailloutis inégales, où la chaleur, mêlée à des relents d'étables et de basse-cour, tombait plus lourde qu'en rase campagne, tout à coup il se trouva devant l'église, une vieille église trapue avec son portail roman drapé de tentures noires, aux mêmes lettres d'argent, LF, qu'il venait de voir sur la maison du notaire. Une croix de pierre entourée d'un quinconce de tilleuls, rabougris, lourds et immuables comme elle, faisait face au portail de l'église. Tout autour, sur l'étroite place, deux roulottes dételées restées là depuis la fête du pays dormaient dans l'atmosphère pesante. 4 heures sonnèrent, et sitôt après, les notes d'un glas, lentes, espacées, tombées du clocher une à une, annoncèrent l'approche du convoi. Une envie subite lui vint de la regarder passer. Mais où se mettre pour ne pas être vu ? Dans un coin de la place, derrière quelques caisses de laurier rose, il avisa un cabaret moisi où l'on arrivait par quatre marches. Il entra, se fit servir près d'une fenêtre. Deux roulottiers blafards à tête d'aventure buvaient debout devant le comptoir, surveillant du coin de l'œil leur maringotte dételée sous les arbres de la place, et se comptant tout haut leur détresse, les grandes et petites misères du métier. En arrivant, Dubréau entendit le plus âgé dire à l'autre d'un accent de certitude et d'expérience « Mets tes épaulettes à ton Jean-Jean, ça te fera le colonel qui te manque. » Tout de suite, il songea, comme Louise aurait ri de ce mot d'impresario forain, elle qui les aimait tant, ces deux lobelles de grande route. Et justement, il y avait à une table voisine de la sienne un homme à menton bleu, répondant lui aussi à cette catégorie de cabotin bohème, un peu moins minable cependant. Au lieu de porter les espadrilles et la vareuse en papier brûlé des deux roulottiers, celui-ci était chaussé de souliers vernis, de guêtres blanches, vêtu de drap noir tout neuf et coiffé très en arrière d'un haut de forme à bord plat, endeuillé d'un immense crêpe qui laissait à découvert, sous des boucles grisonnantes et comme poudrées, un grand front blême en pyramide, des yeux rougis, brûlés d'alcool, des joues flasques et flottantes, sabré de ces rides profondes que creuse l'ablation des grosses dents. Une majestueuse cravate blanche d'homme de loi de l'ancien temps achevait de singulariser le personnage, sirotant un petit coup dans un verre épais et lourd comme une tasse, une purée d'absinthe que lui disputait un tourbillon de guêpes. En face de lui, une gamine de 10 à 12 ans, en noir comme son père, les mêmes traits fripés et bouffis, les mêmes yeux larmoyants, était assise entre deux tout petits garçons en deuil aussi, et vêtus comme des hommes, sur lesquels la grande sœur veillait avec une autorité et des précautions de maman, coupant leur pain, remplissant leurs verres, détaillant le fromage en parts égales, et dans son empressement à donner la béquille à ses petits affamés, oubliant qu'elle non plus n'avait rien mangé ni bu depuis le matin. Autour du grand quartier de Brie, posé devant eux sur la table, entre une miche et un litre, tout un essaim de guêpes bourdonnait comme au bord de l'absinthe paternelle, mais, bien loin de gêner l'appétit des enfants, l'adresse de leur père à faucher les guêpes au vol avec le couteau au fromage, à les couper en deux, malgré le tremblement alcoolique de ses mains, les divertissait prodigieusement. Et les yeux élargis, la bouche pleine, il se délectait à regarder ses guêpes, le corps tranché en deux, ne tenant plus que par une membrane, traîner, tortiller leur agonie sur le bord de l'assiette au bris, toute noire de cette grouillante jonchée. Dubréau prêtait à cette scène enfantine la minutieuse attention que notre esprit apporte aux choses infimes lorsqu'il est fortement préoccupé. Soudain, l'homme aux guêtres blanches, son chapeau d'une main, de l'autre son verre d'absinthe, s'avança vers lui avec des révérences et des pointes de maître à danser, vacillantes et trébuchantes. Marquis François Dubréau, si je ne me trompe, je vous ai reconnu tout de suite quand vous êtes entré au portrait que Louise avait toujours sur elle. Il s'interrompit pour poser son verre sur la table de Dubréau, devenu subitement très pâle, et se présenta la voix prétentieuse et poisseuse. « De Varennes, chef d'orchestre, Le musicien Desvarets, l'élève de Monsieur Niedermeyer, l'auteur du lac de Lamartine, moi-même compositeur de plusieurs mélodies, mais pardon, monsieur le marquis, je vous dérange. Vous désirez peut-être aller rejoindre le cortège? Oh, non, n'est-ce pas? On a dû vous jouer la même farce qu'à nous. Défense de suivre. Pourquoi? Moi encore, ça se comprend, j'ai été le vice de Loulou, son abjection, mais vous. Mais ces pauvres enfants. Car c'est ma progéniture, ce grand laideron à tête de lapin malade et ces ridicules petits gauchos dont les pantalons traînent jusqu'à terre. Pourquoi les punir, je vous demande? Pourquoi pas les laisser accompagner jusqu'au bout, celle qui leur a été si tendre? C'est pas à cause de leur mauvaise tenue. Oh, pigez-moi ça, monsieur le marquis. L'asthma-là s'est habillé de neuf, des pieds à la tête pour la cérémonie. Puis un radis à la maison, j'ai tout raclé, tout mis au clou, pour que le deuil de notre ami soit indignement porté. Comme je le disais à la petite tout à l'heure, que tes frères ne me demandent pas pour un sou de pain de puce, je pourrais pas le leur donner. Il humecta l'âpreté de cette déclaration d'une forte lampée d'absinthe et reprit. « Oh, je regrette pas cette dépense. Les enfants doivent porter le deuil de leur mère, et Louise Fédor a été une vraie mère pour ceux-ci. C'est même à cause d'eux que je suis devenu enfin ce que j'étais. Car il est extraordinaire qu'un pauvre musico, là, un misérable raté comme moi, et puis devenir l'amant de cette grande artiste, de cette créature adorable, qui a eu des banquiers, des rois, des princes à quatre pattes sur sa descente de lit, et les plus grands noms du théâtre au bas des lettres d'amour les plus éperdues. Et ben voici exactement l'histoire de cette rare bonne fortune. C'était quelques mois après sa fugue de la Comédie française, malgré tout. Elle avait dû accepter, faute d'argent, une tournée de villes d'eau, Vichy, Roya, Aix-les-Bains, où elle jouait quelques-uns de ses plus grands succès, Dora, Froufrou, Diane de Lys, La Visite. Il se trouva qu'à cette époque, je dirigeais l'orchestre de Vichy, sans beaucoup d'entrain, je dois le dire. Ma femme venait de me lâcher pour courir après mon premier violon, lequel, lui, se moquait un peu de Madame Desvarennes et ne songeait qu'à tripoter le carton. Toujours me voilà seul à l'hôtel avec mes trois petits, dont les deux derniers, les garçons, parlaient et marchaient à peine. Heureusement, la sœur avait 9 ans. À cet âge, selon la retourne, elles sont déjà ou gadou ou maman. Telle que vous la voyez, celle-là, il y a 2 ans, elle savait, le soir, tremper la soupe au lait des deux petits frères, puis les déshabiller et bien les morder dans le lit d'hôtel. Et lorsqu'elle les avait endormis d'une belle histoire, craignant que je me laisse entraîner à boire après la représentation, elle venait me rejoindre à l'orchestre, s'asseyait à mes pieds sur un petit banc jusqu'à la fin. Et quand la pièce était longue, je sentais en battant la mesure sa petite tête posée sur mes genoux s'appuyer de plus en plus lourde. À une répétition de Froufrou un jour, la Fédor, qui ne m'avait jamais parlé, vint au bord de la scène et sa main gantée devant ses yeux éblouis par la rampe. « Desvarennes, me dit-elle. « Envoyez-moi donc ce soir votre fillette dans ma loge, elle y sera mieux pour dormir qu'à l'orchestre et sur vos genoux de bois. » Quand elle eut la sœur, l'idée lui vint que les petits frères, couchés tout seuls à l'hôtel, pouvaient se réveiller et avoir peur dans leur chambre. Elle prit les petits à dormir chez elle avec la grande. Et une fois qu'elle eut tous les mioches, le père fut de la maison par-dessus le marché. Ah, femme incomparable, si je t'avais rencontrée plus tôt, que n'aurais-je pas fait le Gaston des Varennes, l'élève préféré de Niedermeyer, mais il était trop tard. À quoi bon des brancards neufs, un attelage fourbu? Le cahier de mélodie dont cette âme généreuse paya l'impression n'a été lu de personne. Personne n'a entendu mon oratoire exécuté à ses frais par la maîtrise de Saint-Eustache. Pas bon, tout cela m'a découragé. Elle n'avait pas non plus grand goût à la vie, la pauvre femme. Précisément, monsieur le marquis venait de la plaquer quelques mois auparavant. Il s'inclina, le verre en main, le bras arrondi comme pour corriger la trivialité de l'expression, puis continua. Le réservoir d'énergie de jeunesse que vous étiez pour elle depuis des années, qui lui avait fait un regain de talent, de succès, lui craquant tout à coup, elle s'était trouvée en présence d'une double vieillesse, celle de l'actrice et celle de la femme. La maladie s'en mêla. Chez ces dames, je me suis laissé dire, elle n'est le plus souvent qu'une forme visible de gros embêtements, le deuil des grâces finissantes. Quand je l'ai connue, la Fénor, encore plus ennuyée que malade, s'était mise à la morphine. Je lui ai montré ce que cette drogue avait de bête et de morne, et que poison pour poison, rien ne vaut une bonne verte, bien battue. Il prit la bouteille d'absinthe restée sur la table voisine, et pendant qu'à petits coups grelottants il remplissait son verre jusqu'au bord, de la place de l'église arrivaient soudainement des airs funèbres, psalmodiés par de fortes voix de campagne mal écorcées, que soutenaient les basses de l'ophicléide et la tombée à temps égaux de la cloche de mort. Vite, Mélie, fit l'ivrogne en tournant vers sa fille. Il n'y a que temps, et conduis les petits à l'église. Vous laisserez passer tout le monde et vous vous mettrez à genoux dans le fond, bien dans le fond. Seulement, je veux que vous entriez, tu entends? Personne n'a le droit de vous empêcher d'entrer. Et s'exaltant à l'idée que la même volonté mauvaise pourrait leur interdire l'église, qui leur avait fermé la maison mortuaire, il brandissait le litre qu'il n'avait pas lâché et clamait vers le dehors. Ne l'essayez pas, oh, ne l'essayez pas. Effrayé de cette voix d'alcool dont les éclats méchants la faisaient si souvent pâlir et sursauter la nuit, la grande sœur se hâta d'emmener ses frères, qui eux ne songeaient qu'au pain et au fromage restés sur la table, à la merci des guêpes, et s'en allaient à regret, le cœur gros. À l'approche du convoi, Dubréau, troublé déjà par l'apparition de Desvarennes, s'était levé très ému et, s'abritant derrière la fenêtre entr'ouverte, regardait venir sur la place, après la haute croix d'argent, les surplis en double file tremblotantes de cierges et de voix, le cercueil porté à bras sous sa draperie frangée. Comme il est lourd, ce sommeil des morts! Dire qu'il fallait quatre hommes robustes et musclés, quatre campagnards faits à la peine et se relayant, pour charrier ce rien du tout de femme, cette petite étoile morte de la maison à l'église et de l'église au cimetière. Subitement, comme si le cercueil s'était ouvert, elle lui apparut, étendue entre les planches étroites, avec le sourire radieux qui trouait sa joue d'une fossette, et la caresse de son regard gris-bleu, gris de perles, aux grands cils abaissés, aux paupières meurtries et comme fardées par le plaisir. Mais ce ne fut qu'une vision, emportée presque aussitôt par les pitreries de Desvarennes debout à côté de lui, et de sa voix de blague et d'alcool dénombrant le cortège à mesure qu'il défilait. « La famille, messieurs, le notaire redouble, Madame Marie Fédor, son épouse, premier prix de tragédie, et leurs invités. Tous des anciens de Loulou, ces invités. Les célèbres seulement. L'Institut, le conservatoire, mais pas un comédien, même avec la Légion d'honneur, pas de cabotine non plus. Madame Restouble a le théâtre en horreur. Nous avons cependant le directeur des fantaisies et deux vaudevillistes fameux, Ladiboire et Ripo Babin de l'Académie française. Tant de vieux poseurs. Je les entendais en venant dans le wagon se vanter de la passion qui la brûlait pour chacun d'eux. S'ils avaient su devant qui ils parlaient, aimé de Loulou. Non, mais Bibi, vous pouvez faire boucher vos jabots. Pas un de vous qui ait eu cette veine, pas même ce gros emphysémateux de directeur à qui elle a fait croire qu'il était son premier amant. D'abord, son premier amant, elle ne l'a jamais connu. Un bal d'étudiants chez Marie Fédor, une nuit, un carabin déguisé en singe emporta Loulou dans la chambre de sa sœur. Et pendant que la grande Fédor rigolait, la petite se laissait faire en pleurant, sans oser dire qu'elle était vierge, de peur d'avoir l'air d'une dinde. Le voilà, son premier tombeur, celui qu'on n'oublie jamais. Ce fut ce gorille anonyme. Oui, monsieur, parfaitement. Alors il s'animait, clamait, levait son verre, si bien que Dubréau, gêné, dut s'écarter de la fenêtre et reprendre sa place sur le banc où le pochard vint le rejoindre, harcelant, intarissable. Que monsieur le marquis ne s'étonne pas de me voir si bien renseigné sur notre ami. C'est que je me suis trouvé près d'elle à des heures où le besoin lui venait non plus de bâiller sa vie, comme disait l'autre, mais de la vomir. Cela prenait le soir entre chien et loup, dans ce petit entresol du boulevard Poissonnière, qu'il a vu des heures immobile sur un fauteuil très bas, avec le roulement continu des voitures sous sa fenêtre. Alors, surtout quand elle avait dans la tête la chaleur d'une bonne verte, il lui montait de son ivresse et de toutes ses lumières du boulevard, seul éclairage de sa chambre qui papillotait au fond de son verre, un tas de souvenirs, de confidences invoulues. Oh, j'en ai appris de rôles ces soirs-là. Mais de plus drôle encore, quand la dèche, la grande dèche venue, la Fédor, ne pouvant plus paraître sur la scène, en fut réduite à écrire à ses anciens. C'est moi où, lorsque j'étais pris de boisson, ma grande fille, qui portait les lettres. Ces lettres-là, voyez-vous, écrites toujours suivant les goûts du destinataire et dans le sens de sa vanité, étaient le pur chef-d'œuvre. Bon sang de Dieu, les bosses de rire que nous nous donnions quelquefois quand elle m'en lisait une avant de la fermer. Par exemple, au temps les plus durs de sa misère, jamais elle n'a voulu s'adresser à vous. Quelquefois, par jalousie, je la poussais à le faire, alors elle s'emportait. Oh non, non, pas celui-là. Je l'ai assez bassiné. Et puis il y a de trop bonnes choses entre nous. Je ne veux pas le mêler à ses saletés. Et quand tout lui a manqué, plutôt que de vous tendre la main, elle a préféré venir s'enfermer ici, chez cette sœur menteuse et méchante qu'il a toujours détestée pour ses succès, pour son talent, et qui s'est payée en quelques mois tout un arriéré de haine et d'envie. Pauvre Louise. Un martyr, n'est-ce pas? Un martyr abominable. Ton existence dans cette maison à façade hypocrite et soignée. Ils ont dû te faire mourir à tout petit feu, te retourner sur un côté puis sur l'autre. Et demain, tous les journaux raconteront combien ta grande sœur a été généreuse pour toi. Ils rappelleront son prix de tragédie, bien près de reconnaître que c'était celle la vraie Fédor. Cela lui aura coûté si peu de choses. La peine d'inviter à ton convoi quelques-uns de tes couchers les plus illustres, et, vu la rareté des trains, de garder ces vieux célèbres à dîner avec les messieurs du grand reportage. Il n'y a que nous deux qu'on a invités à rien du tout, qu'on a même expulsés, les deux précisément que tu as eu le plus près de ton cœur. Oh, oh. Pas seulement nous permettre de te suivre jusqu'au cimetière, mais c'est un peu dégoûtant tout de même. Dis, loulou, dis, ma petite louloute. Comme si elle avait pu lui répondre du fond de son verre, il se penchait dessus, l'appelait de petits mots tendres, et enfin, son absinthe le vidait d'une lampée, il s'écroula sur la table tout sanglotant et ronflant. 10 fois depuis sa rencontre avec ce triste personnage, Dubréau avait eu l'envie de fuir, écœuré de ses révélations, mais retenu quand même par une curiosité mauvaise, le besoin de savoir si cette malheureuse fille avait vraiment souffert à cause de lui. Voyant l'homme endormi, il se levait pour partir, quand un coup d'œil dehors l'obligea d'attendre. Le convoi sortait de l'église, escorté de cloches et de chants, et tandis qu'il se reformait sur la place, ceux des Parisiens qui, pressés par l'horreur du train, ne pouvaient suivre jusqu'au cimetière, venaient saluer la famille ou se faisaient inviter au dernier moment, car des Varennes ne s'étaient pas trompés, il y avait un repas des funérailles. Les non-privilégiés prenaient la route de la gare avec des airs faussement pressés et des dos de mauvaise humeur. Au milieu d'un groupe de vieux célèbres, l'ancien prix de tragédie agitait ses voiles de deuil. Maître Restouble, parlant à la mi-veillon, s'épongeait le front dans l'air brûlant. Et sous les lauriers roses en caisse du petit café, les reporters buvaient des grenadines en échangeant à haute voix leurs renseignements sur l'étoile qu'on enterrait. Tous très jeunes, ces messieurs n'avaient pas la moindre notion du talent de la Fédor, mais ses aventures galantes, ses frasques de tête et de cœur, oh, ils les savaient bien, sur le bout du doigt, les racontaient, ainsi qu'une immonde légende dont l'ancien amant, assis près de la fenêtre ouverte, ne perdait pas un mot, pas une éclaboussure. Il en éprouvait un sentiment de gêne, de dégoût, qui, venant après les récits de des Varennes, faisait du martyre de Louise et des férocités de sa sœur les inventions d'un pochard sentimental, et l'amenait à conclure « Mais pourquoi suis-je venu ici? Mais je n'avais rien à y faire !» L'entrée de la petite Mélie, traînant toujours ses frères par la main, le tira de sa songerie. En l'absence des enfants, les guêpes s'étaient emparées du pain et du fromage surtout. L'assiette bourdonnait toute noire. Les petits se ruèrent dessus, aidés de la grande sœur, et ce fut une bataille atroce. Enfin, quand l'essaim eut pris la fuite, que les enfants furent bien installés, chacun devant une belle tartine de miche tendre, la fillette s'approcha de son père qui ronflait toujours, ramassa le chapeau roulé par terre et l'ayant essuyé avec soin, le posa sur la table à côté de lui, à la place de la bouteille d'absinthe magiquement disparue reportée sur le comptoir. Les regards du monsieur qui se trouvait là, croisant les siens à plusieurs reprises, la gênaient bien un peu pendant son manège de petite maman. mais elle en eut vite pris son parti. Comme elle passait près de lui en retournant vers ses frères, du Bréau saisit son poignet, si mince, si fragile, oh, fragile à faire pleurer, et froissant un billet bleu dans la molaire de la petite main. « Pour vos enfants !» lui dit-il à voix basse. Tout de suite, dans la pâleur bouffie et maladive de cette figure de fillette grandie trop vite, un sourire d'une douceur et d'une compréhension adorables jaillit comme un arc-en-ciel qui allait du père endormi, le plus terrible de ses enfants, à l'assiette gloutonne des deux autres. Ses yeux rongés et sans cils roulaient de grosses larmes, et elle s'inclina en murmurant « Merci, merci !» Quand il sortit, la place de l'église était déserte. Une roulotte attelée y restait seule, prête à partir, et dont la rosse efflanquée essayait d'atteindre les branches basses du quinconce. Sur le pays silencieux, en notes lentes et mourantes, le clocher secouait la fin de son glas, les dernières gouttes restaient au fond du bénitier. De loin en loin, il répondait de sourds roulements de tonnerre. Sans doute il aurait mieux valu pour du Bréau laisser passer l'orage qu'il sentait tout proche, à l'embrasement de l'atmosphère, à l'attente, à l'immobilité du tout. Mais rester seulement une minute de plus dans cet affreux huis sous, s'exposer à entendre quelque nouvelle infamie lui semblait intolérable. Il prit droit devant lui et se trouva presque aussitôt en plein champ, très étonné de ne pas reconnaître la plaine immense par laquelle Veillon l'avait amené. Ici, des chemins creux, des vallonnements ombragés d'arbres. Un bruit d'essieux et de roues fatiguées venait derrière lui. La dernière roulotte de la fête qui s'en allait. Il s'arrêta pour demander la route de Juvisy. Vous y tournez le dos à Juvisy, dit le vieux roulottier assoupi sous le vent de sa lourde voiture. C'était le même qui, devant le comptoir, donnait à son copain de si judicieux conseils sur l'emploi des épaulettes. Une grande fille rousse, à la voix rauque, aux traits corrects et durs, vêtue d'une jupe et d'une camisole, les pieds nus, poussiéreux comme chaussés de cendres chaudes, était assise à côté de lui et se pencha toute pour voir à qui parlait son père ou son homme, enfin peut-être les deux. « Oh, si ce monsieur veut monter près de nous, » dit-elle sur un ton de commandement, pendant que des figures curieuses se montraient aux petites fenêtres de la voiture, « nous détournerons par le Ménil et nous le mettrons sur sa route. » Ce sera plus court qu'une explication, surtout avec l'averse qui chauffe. Un coup de tonnerre plus violent que les autres et sous lequel le sol vibra comme une peau de tambour, décida du Bréau à accepter l'offre de ces pauvres gens, tout fier d'abriter un Parisien venu, pensait-il, pour les obsèques de la comédienne. Il prit un air étonné. « Une comédienne ? Oh, et des fameuses !» dit avec fierté le vieux, qui avait été souffleur au casino de Perpignan. « Louise Fédor, de la Comédie française. Elle est morte ici, chez un notaire. » On passait devant un haut portail en bois peint, large ouvert et gardé par deux énormes mélèzes, dont les branches balayaient le sol. « Ben, justement, voilà le cimetière, » murmura le roulottier. « Ils sont en train de la descendre dans le tombeau de famille. Penchez-vous, voyez !» Du manche de son fouet, il montrait au bout de la longue allée, bordée de buis verts et de pierres blanches, un agglomérat de vêtements de deuil et de fronts découverts, s'inclinant devant l'étroite chapelle aux vitraux de couleur, aux prétentieuses mosaïques. Et il ajouta, pendant que son cheval montait lentement le raidillon, longeant la muraille crépie. C'est la plus belle tombe du pays. D'ici Corbeil, on n'en trouverait pas une aussi riche. De sa voix fruste, rocailleuse, la grande fille l'interrompit brutalement. Oh, n'empêche qu'à la place de la camarade, j'aurais pas aimé être enterré là-dedans. Qu'est-ce qui viendra la chercher ici? Qui pourra se douter jamais qu'elle est là, lui jeter en passant un bonjour, un bouquet, ses 2 sous de fleurs qu'à Paris, rien qu'avec son nom, au bord d'une pierre, elle serait toujours sûre d'avoir? Sans compter qu'à Vissou, 2 tisons jaunes flambèrent sous les sourcils ardents de la gitane. Alors un jour, sa sœur, pour lui faire société, et c'est une sacrée vilaine femme. Vraiment ? Demanda Dubréau d'un ton qu'il essayait de rendre indifférent. Vous la croyez si méchante que ça ? Le vieux, les lèvres serrées. « Oh, on ne l'a vu qu'une fois, mais ça suffit. Figurez-vous, monsieur, que cette année... » La voiture continuait à grimper péniblement contre le mur du cimetière, d'où montait une voix blafarde, officielle, sonnant faux dans le silence imposant de la campagne. Le panégyrique superbe que cette voix proférait sans doute... les phrases qu'elle filait sur quelque ancien dévidoir ministériel, branlant et reluisant. Dubréau était trop loin pour les entendre. Mais ce ronron funèbre le faisait penser aux déclamations de Desvarennes, son litre d'absinthe à la main, et les naïves confidences chuchotées à son oreille achevaient de lui serrer le cœur, en lui prouvant combien tout ce qu'avait dit l'ivrogne devait être vrai. Cette année donc, pour la fête du pays, nous donnions Ali Baba et Geneviève de Brabant au bénéfice de Madame Diego, que voici. Le dimanche, dans l'après-midi, nous sommes allés tous deux, comme on fait, offrir aux notables nos programmes et des billets pour le soir. Chez le notaire, nous avons trouvé les dames sur la terrasse, au fond du jardin, et dès le premier mot, j'ai compris que c'était inutile, qu'il n'y avait rien à espérer. Alors, du grand fauteuil de la malade, oh, elle est morte 3 jours après. On a vu sortir une petite tête pas plus grosse que le poing, bien creusée, bien changée depuis Perpignan, et qui s'est mise à dire « Voyons Maria, voyons Maria, oh, pas plus que cela, mais d'une bouche si bonne, d'une douceur de voix si entrante, que la petite et moi, nous n'avons pas pu nous retenir de pleurer. Ah, cette Fédor, elle a dû en tirer des larmes au payant avec une voix pareille. La femme du notaire, elle n'y a pas été surprise. Elle s'est retournée comme piquée d'une mauvaise bouche et l'a jetée à sa sœur. Hé, dis donc, toi, c'est pas ton argent qui danse. En même temps, son ombrelle nous faisait signe. La sortie est par là, filée.
Et qu'elle aurait bien voulu filer aussi, la pauvre, s'en aller avec nous dans la bagnole des libres mendigos. Dit la grande rousse aux pieds poudreux à la livrée de misère.
On arrivait en haut du raidillon. La voiture s'engageait dans un petit chemin à travers champs où il y avait à peine la place de ses roues. Et après quelques minutes d'une course cahotée, elle s'arrêta au croisement de plusieurs routes dont la plus large et la plus droite était celle de Juvisy.
Si vous allez toujours de ce pas, vous arriverez avant l'orage, cria le vieux bohème à Dubréau qui se hâtait, courait presque, afin d'être seul et loin, d'échapper à l'histoire de cette fin de vie navrante et obsédante comme un remords.
Eh oui, maintenant il en avait la preuve. C'est pour lui que Louise était venue vivre chez sa sœur, pour lui qu'elle y souffrit 1000 morts dans l'espoir qu'elle le reverrait. Mais était-ce possible? Tout n'était-il pas fini, brisé depuis longtemps et pour toujours? Il avait beau chercher, sa conscience ne lui reprochait rien. Tout en songeant et regardant devant lui, il fut brusquement saisi par les transformations du paysage depuis quelques heures. En route avec Veillon, c'était une immense plaine du Midi, éblouie et papillotante sous la lumière d'un grand ciel blond, tout vibrant de chaleur immense. À présent, sous ce même ciel, mais assombri, comme descendu, les colzas en jaune losange, le vert cru des champs de betteraves, la rayure rose des sainfoins prenait un éclat extraordinaire. Tout le décor semblait s'éclairer par en bas, comme dans un paysage du nord, mais un nord de plein été, orageux, étouffant, où rien ne bougeait, pas une plume d'oiseau, pas un épi d'avoine. Soudain, loin, très loin, à l'extrémité d'un champ que des faucheurs invisibles se hâtaient de coucher avant l'averse, l'éclair d'un outil flamba sous un ray de soleil blanc, venu de derrière lui là-bas, péniblement filtré entre deux épais nuages et juste au-dessus du cimetière, dont la muraille de craie se profilait sur l'horizon. Le temps d'un adieu suprême à celle qui dormait là, il se remit en route et voilà que ce rayon perdu du couchant, comme il avait frappé l'acier d'une faux lointaine, allait chercher, évoquer au fond de sa mémoire à 9 ou 10 ans de distance, par une similitude de température, aussi par l'énervement de son étrange journée, le souvenir de sa première rencontre avec la Fédor un après-midi d'été. C'était un raout, une garden party à l'ambassade d'Angleterre. Elle venait de dire la fête chez Thérèse, avec cette voix prenante un peu voilée, ce délicat emportement de tout son être. Oh, « Menez-moi à l'air, je meurs !» dit-elle à Dubréau sans le regarder, et traversant au milieu de la foule ces somptueux salons de l'hôtel Borghese, où flotte dans l'irisement des hautes glaces l'image voluptueuse de la belle Pauline, ils vinrent s'asseoir au bout du jardin, contre la grille qu'un épais rideau de glycine retombante sépare de la perpétuelle féerie des Champs-Élysées. Un coup de tonnerre formidable le rappela en quelques secondes à la réalité des choses. Des anneaux de poussière couraient sur la route, soulevés par une haleine chaude sentant le soufre, tandis que du fond de la vallée, en face, montait au galop de charge un nuage safran, veiné de feu, effrangé, effiloqué sur ses bords en grise déchirure de pluie. Deux pigeons blancs, seuls oiseaux dans l'espace, se débattaient et tourbillonnaient en avant de la bourrasque et éperdus les ailes ouvertes. Presque aussitôt, le chemin s'étoilait à ses pieds de larges gouttes, très espacées d'abord, puis serrées et précipitées. Enfin, la nuée se débonda, et jusqu'à Juvisy, jusqu'à la nuit tombante, il marcha sous un ruissellement de flammes et d'eau, glissant, pataugeant dans les flaques, mais sans rien voir, sans rien sentir, tout au ressassement de sa vie avec la grande comédienne et de ce qu'ils appelaient leur amour. Oh, cette femme à tout le monde, que les acteurs tutoyaient, à qui le plus bas, figurant le plus sordide chef de claque, soufflait des ordures dans le cou. Cette femme, dont les petits, cercleux encore au biberon, venaient chercher leur matériel à la fin du spectacle et avaient le droit de dire « Oh, Louis, j'ai été infect ce soir !» Viande de Tattersall, que devant lui n'importe quel maquignon pouvait vanter, détailler du sabot à la crinière, de la croupe jusqu'au garrot.
« Où est madame ?»
Oh, enfermé avec le directeur ou en train d'écouter dans sa loge le rôle que lui mijotait l'auteur du jour. Ce qu'il avait ragé, rugi devant cette porte. Et sur le divan de l'entrée dans le petit salon bleu où il l'attendait pendant qu'elle était en scène, quelles heures d'angoisse. Des loges voisines, personne ne le savait là. Alors tous les cabots, hommes et femmes, en s'habillant la porte ouverte, en se passant le rouge ou le blanc gras, parlaient sans se gêner, comme lorsqu'ils sont entre eux. C'était le long du corridor des fusées de rires immondes, un argot de bagne, des potins de filles à soldats. Et Louise entendait cela. Il répondait sans doute quand elle se trouvait seule, puisque c'était son mode, sa vie. Tout le cœur de l'amant se soulevait de dégoût à cette idée. Quelquefois, il descendait sur le théâtre, errait derrière les portants, risé des pompiers et des machinistes, blême et contracturé comme l'auteur un soir de première, car sa maîtresse en scène lui donnait toujours la même crispation. Il se sentait encombrant, ridicule. Mais où aller ? Elle jouait tous les soirs, répétait toute la journée au théâtre. Et la savoir, sans lui, dans ce bouge, livrée à tout son caprice, il en serait devenu fou. Elle aussi le voulait toujours là. Plus âgée que lui, elle n'en était que plus jalouse, et comme ces ramiers qui passaient tout à l'heure en plein ciel d'orage, longtemps ils s'aimèrent, dans les éclairs et l'ouragan. C'est encore ce que leur liaison avait eu de meilleur. Oui, ces scènes abominables, ces colères jusqu'au délire, jusqu'au cou, tout valait mieux pour lui que l'aveulissement des dernières années, l'enlisement sinistre dans la boue du cabotinage, quand les comédiens l'appelaient « mon petit François », les contrôleurs, monsieur le marquis, et que tous le voyaient déjà mari de la Fédor, gros marchand de billets ou commanditaire de théâtre. C'est vers cela qu'il allait le malheureux, qu'il glissait tout doucement, sans passion, sans joie, par la force aveugle et lâche de l'habitude, le bercement mortel de la roulotte. Lorsqu'un jour, dans le salon de sa mère, lui était apparue celle qui allait lui apprendre les belles ivresses de la vie à deux, son divin petit château frayé. En quittant le train de la Grande Ceinture pour faire à pied, car on ne l'attendait pas, les 2 ou 3 kilomètres qui le séparaient de chez lui, Dubréau se trouva devant des chemins obscurs et un ciel sans nuages, où le jour s'éteignait, tandis qu'à de longs intervalles, des éclairs livides, déchirant l'horizon silencieux, signalaient la fin de l'orage. Dans sa hâte d'arriver, il avait pris la route morte, pleine d'ornières boueuses et d'herbes folles, encore ruisselantes. Ensuite, il coupa court à travers des champs saccagés, ravinés, dont l'orage avait fait des paquets de goémons mouillés et glissants. Soudain, au bout d'une terre de labour fraîchement moissonnée et pleine d'eau, où ses bottes flaquaient, s'embourbaient comme dans une mare, la longue cheminée de la raffinerie se dressa sur le crépuscule. Et un moment après, François Dubréau,
cherchant à tâtons dans l'angle du portail la chaîne de la cloche, la secoua joyeusement. Oh, l'odeur des citronniers après l'averse, la cour sablée à neuf, étincelante et nette, devant le vieux logis Louis XV, tout en longueur où couraient des lumières. Après le noir du dehors, ce fut une intimité subite et délicieuse. Comme il franchissait le perron, une persienne s'entr'ouvrit doucement à l'étage. « Monte vite, je suis près de l'enfant. »« Est-ce qu'elle est malade ?»« Non, rien. » Dans le mezzavolce de la mer, il y a un velouté, un accent de bonheur qui le rassure tout de suite. En s'arrêtant au vestibule pour quitter ses vêtements trempés, ses chaussures lourdes de vase, il a vu un coin de salle à manger, tout allumé, deux couverts qui attendent en face l'un de l'autre sur la nappe éclatante et fleurie. Maintenant, vite l'escalier, une grande chambre ou une autre plus petite que baigne la vague lumière bleue d'une lampe de nuit. Et dans cette flottante poussière sidérale dont tout s'imprègne alentour, il s'avance vers le petit lit de claire mousseline, près duquel sa chère femme est debout, l'appelle d'un geste tendre. Ce qu'il met d'élan passionné, de ferveur reconnaissante, dans cette première étreinte, ce qu'il étouffe de sanglots d'aveux inexprimés, il semble qu'elle l'ait compris au ton appuyé dont tout bas elle le console. La mauvaise journée qu'il a dû passer, le pauvre ami. C'est si triste de voir partir ce qu'on a connu. On dirait que cela vous emporte un peu de vous-même. Pour elle non plus, l'après-midi n'a pas été gai. La petite se plaignait, avait la peau brûlante. Puis vers le soir, la fièvre est tombée, et les joues sont redevenues bonnes, et maintenant elle dort, si calme, si fraîche. Tiens, regarde. Et la mère écarte le rideau, et pendant qu'ils sont là, tous deux penchés sur cette chair d'enfant nacrée, veloutée, à la pulpe plus tendre que le plus beau fruit, pendant que leur souffle se mêle au léger frisoli de cette petite bouche entr'ouverte, doucement la mousseline se referme et les enveloppe tous les trois du retombement de ses plis légers. Qu'on est bien, que tout le reste est loin, quel repos dans l'oubli du monde.